Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à La Beaujoire, Nantes. L'équipe de France débute sa préparation pour la Coupe du Monde ce soir. Le chemin vers la troisième étoile débute ici, face à la Côte d'Ivoire. Coup d'envoi 21h10 de cette rencontre qui sera en intégralité bien sûr sur RMC avec à mes côtés Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut Jean-Louis.
La Dream Team ce soir, c'est Kevin Diaz qui sera là aussi pendant le match. Salut Kevin.
Salut à tous.
Et Maxime Chanot dans l'avant-match. Salut Maxime.
Salut à tous.
Alors on va évidemment avoir les compos d'équipe d'ici quelques minutes et on va poser les enjeux de cette rencontre. Est-ce que les lignes peuvent vraiment bouger dans l'esprit de Didier Deschamps d'ici au Mondial? Est-ce que Mbappé a la clé de la réussite de cette Coupe du Monde? Lui qui peut battre ce soir le record de buts en équipe de France. On vous dira tout sur la Côte d'Ivoire avec deux invités. Patrice Baumel, l'ancien sélectionneur, et la légende Gervinho, champion de France avec Lille. Ils seront avec nous en direct d'ici quelques minutes. Et puis on va se projeter sur le Mondial côté logistique, des prix exorbitants, la Fédé qui ne veut donc rien lâcher aux joueurs, même au niveau des primes et des places. On aura des infos à vous donner. On va vous poser la question au 32-16. Cette Coupe du Monde hors de prix, est-ce qu'elle vous gâche déjà le plaisir? 32-16, mais également la page YouTube de l'After où vous pouvez envoyer vos messages, vos commentaires. On vous attend bien sûr sur RMC jusqu'au coup d'envoi de ce France-Côte d'Ivoire.
Marcus Thuram qui sert Cherki, la frappe à venir, qui est contré, le but, le but de l'équipe de France, Désiré Doué.
C'est pas terminé pour les éléphants.
Diallo, Amad Diallo, le festival, c'est du génie, l'inspiration d'Amad Diallo qui ouvre la marque pour les éléphants. Allez Mbappé en profondeur, on a contré, le voilà peut-être le but, le ballon piqué, et but. Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France.
Un Diallo va tomber, le tour, Yann Diomandé pour le deuxième but des éléphants. On parlait de lui tout à l'heure, qu'on attendait ce but.
Et Kidiké qui va décaler, Rabiot, allez, à quoi jouer pour les Français. Il y a un surnombre avec Michael Olise qui accélère, qui a mis la surmultiplier, qui va décaler, Kidiké, le piqué et le but. Le but du camp et Kidiké.
Écoute Maxime, on va reprendre parce que apparemment là il y a une petite coupure avec Nantes. Donc comment tu vois toi le match de l'équipe de France ce soir?
Bah surtout je vois pas forcément énormément de surprises. On sait que Didier Deschamps, hein, tu l'as bien vu, va se priver un petit peu de ses Parisiens, ses internationaux parisiens. Donc c'est forcément ça va être une défense un petit peu new look aussi avec l'absence de Saliba, hein, on le rappelle, qui s'est blessé sur la finale. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi je pense que c'est juste un match de répétition en règle générale. Kevin, tu sais comment que ça se passe, hein. Les joueurs font quand même vachement attention, c'est le début de la compétition, ils veulent pas vraiment tout donner pour se blesser. Je sais qu'il y en a certains, et c'est ça je me pose la question, tu me diras ce que t'en penses, mais certains disent qu'il y a encore des joueurs qui ont quelque chose à jouer. Moi, pour moi, dans la tête de Didier Deschamps, je pense que c'est réglé.
Je pense
que l'équipe, elle est déjà réglée, évidemment.
Je pense pas que Cherki peut gagner sa place.
On a eu le débat hier, c'est intéressant, mais quand tu vois un petit peu le match contre le Brésil qui a eu au mois de mars, où est-ce que Olise a été très performant, Kylian Mbappé, évidemment, le capitaine de l'équipe de France qui est absolument imbougeable, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, peut-être Désiré Doué.
Ouais, mais avec la blessure du coup d'Hugo Ekitike, il y a quand même une place à prendre dans
cette équipe. Quelle position tu le mettrais?
Cherki derrière l'attaquant, avec potentiellement Kylian Mbappé en pointe et Olise à droite et Dembélé un peu en mode libre un petit peu sur le côté gauche.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, la vraie question, c'est de savoir si Désiré Doué va débuter cette compétition. Moi, je me posais la question aussi parce que je suis convaincu, et ça, on verra et on va avoir les premières réponses en fonction de ce match-là contre la Côte d'Ivoire. Moi, je suis convaincu que cette ligne de 4, Didier Deschamps va sûrement commencer la compétition avec, mais ne va pas terminer avec. Donc, ça voudrait dire qu'on va forcément enlever un offensif pour remettre un numéro 8. Et est-ce que Désiré Doué serait en position de force pour pouvoir jouer en tant que troisième milieu défensif, entre guillemets milieu relayeur, bien entendu, parce qu'il y a Tchouaméni et Rabiot qui sont là et qui sont absolument imbougeables. Voilà, Cherki, évidemment, super joueur.
Imagine aujourd'hui 2 passes D, 1 but.
Ah ben évidemment, et d'ailleurs on les a vus, hein. Historiquement il y a certains joueurs qui peuvent encore marquer des points, mais par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à la saison, alors je parle pas de qualité intrinsèque, parce qu'évidemment Cherki, on sait très bien que c'est un top joueur, il nous l'a montré encore cette année avec Manchester City. Pour moi, à mes yeux et aux yeux de Didier Deschamps, par rapport au choix qu'il a fait, j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui Cherki puisse rentrer titulaire, au dépens évidemment de Désiré Doué qui a fait une saison exceptionnelle.
Bah écoute, on a Pierre qui est auditeur là, qui va peut-être nous donner son avis. Salut Pierre.
Oui, bonsoir messieurs.
Salut Pierre.
Alors,
je voulais dire bonsoir à Jean-Louis, mais voilà.
Bah, Jean-Louis, il arrive, t'inquiète, ouais. Il arrive. Pour l'instant, c'est moi qui gère. Mais vas-y, Pierre, dis-nous ce que t'en penses là de l'équipe de France, de ce match à Nantes pour débuter cette préparation.
Eh ben, vous savez, j'étais passé à côté qu'il y avait un match. Heureusement que j'écoute l'after.
Ouais, j'ai l'impression que c'est coup du monde,
personne n'en parle.
On en parle dans l'after quand même.
Oui, ben justement, s'il n'y a pas l'after, personne n'en parle.
Dans les émissions de l'après-midi aussi sur RMC.
Ouais, Moscato parle que de rugby, parle que des gens qui sont un peu plus faibles et tout ça, et ils parlent de rien.
Donc toi, tu voulais nous dire un mot sur Kylian Mbappé?
Eh ben oui, moi je pense que tout ce qu'on entend sur Mbappé, qu'il est pas bon, certains qui disent l'équipe de France est meilleure sans lui, c'est hallucinant de dire ça. Parce que moi je pense que Mbappé, il a focalisé sa saison quand il a vu qu'avec L'Oréal, il pourrait pas gagner grand chose, malheureusement pour lui. Eh ben, il a focalisé sa fin de saison sur la Coupe du Monde. Je pense qu'il va être fin prêt pour la Coupe du Monde et il va faire une grande Coupe du Monde parce qu'il veut absolument la gagner avec l'équipe de France.
Et toi, Pierre, tu le mettrais où sur le terrain?
Ah, parce que c'est ça la vraie question. C'est savoir si tu le mets en pointe ou alors si tu le mets sur le côté. Et en particulier,
c'est où tu
à gauche,
trouves le meilleur?
Eh ben, son meilleur poste, ce serait à gauche. Son meilleur poste, ce serait à gauche, ou alors il faudrait les laisser libres de mouvement entre Dembélé, Mbappé et Olivier. Et après, bon, on sait très bien que Deschamps, il ne mettra pas un quatrième offensif, hein, faut pas rêver.
Il va Pierre, excuse-moi, je te coupe, mais il va le mettre au moins pour démarrer. C'est le quatrième offensif.
En tout cas, ça y ressemble, là, par rapport aux dernières sorties de l'équipe de France. Non, il a bien mis en place quatre offensifs.
Les gars, vous connaissez encore mieux le foot que moi.
Ah, je suis entièrement d'accord avec toi.
Je suis qu'un petit entraîneur de district. Dès que les matchs vont commencer en phase finale, il va détonner Rabiot, Koné, Tchouaméni et trois attaquants.
Ouais, ça peut être logique. Ça peut être logique.
Ça va être ça.
Et par rapport à...
Il a toujours fait ça.
Je suis d'accord avec toi. Et par rapport à Kylian Mbappé, moi, j'ai un peu peur, justement, de son positionnement. Alors, beaucoup le veulent à gauche et mettent Ousmane Dembélé en numéro 9. Moi, j'ai un peu peur que ça crée un petit peu un déséquilibre. Un déséquilibre parce qu'on connaît Kylian Mbappé. On sait que c'est pas forcément sa grande qualité de défendre. On connaît aussi le jeu pragmatique de Didier Deschamps.
Arrêtez avec ça.
Alors, attendez. Là, maintenant, là, je suis de retour. Donc, quel est le prénom de notre ami au 32-16?
Pierre de Clermont-Ferrand.
Ah bah bien sûr, Pierre de Clermont-Ferrand. Je te redonne la parole juste après, Pierre, et vous finirez sur Mbappé, ce que vous avez commencé à dire. Mais je sais pas ce que vous avez raconté depuis tout à l'heure, mais merci déjà. On a les compos déjà. Comment ça, je vous écoute jamais? Qu'est-ce que tu racontes? Il faut lui. Bon, non mais Pierre, on a les compos, donc on va donner les compos et après on reviendra sur Mbappé et je te redonne la parole, promis. On va commencer par la compo des Bleus, Fabrice, sans surprise par rapport à ce que vous aviez annoncé sur rmcsport.fr.
Exactement, Mike Maignan dans les buts, à gauche Théo Hernandez, à droite Jules Koundé. Axe, Dayo Upamecano et Ibrahima Konaté, les deux compères de Leipzig qui ont déjà joué ensemble, hein, qui ont l'habitude. Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni devant la défense. Ensuite, quatre joueurs, Marcus Thuram, Ryan Cherki, Olise Mbappé à voir l'animation. A priori, donc, on aurait Olise à droite, Ryan Cherki en 10, Marcus Thuram à gauche avec Kylian Mbappé, capitaine en pointe, qui permuterait donc avec Marcus Thuram.
Et la compo de la Côte d'Ivoire avec plein de joueurs qui sont passés par la Ligue 1 et qu'on connaît. Yaya Fofana, donc l'ancien joueur du Havre et d'Angers dans les buts. Défense centrale avec Agbadou, l'ancien Rémois, et Wilfried Singo, l'ancien Monégasque. Ghislain Konan à gauche, lui aussi ancien de Reims. À droite, Guéladoué, le Strasbourgeois. Au milieu de terrain, Seko Fofana qui a terminé son prêt avec Porto. Il a été champion du Portugal et qui revient à Rennes. Accompagné de Franck Caissier et de Diakité au milieu de terrain. C'est fait. Et donc devant, Yann Diomandé, dont on reparlera dans cet avant-match sur le côté gauche de l'attaque. Eli Wahi à la pointe de l'offensive. Et Simon Adingra, donc le joueur de Monaco, sur le côté droit. Voilà pour les deux compos. Sur la compo des Bleus, bon, Kevin, il n'y a pas de surprise. Hein. On a envie de voir quand même le quatuor offensif, ce que ça peut donner.
Ouais, bah exactement. C'est vrai que nous, on se posait la question là avant que tu arrives avec Pierre, notre auditeur, comment allait s'animer et s'articuler cette équipe de l'équipe de France. Lui, il pensait pas que Deschamps allait commencer à quatre offensifs, même pas la Coupe du Monde. Là, je pense qu'il se trompe, mais en tout cas, ce soir, je pense que. Comment ?
Ah, il a pas dit ça.
Bah, t'as dit qu'on allait pas débuter la Coupe du Monde avec quatre attaquants.
Quand ce sera les matchs qui vont compter.
Ah, ok.
En phase finale, il l'a jamais fait.
C'est Kevin qui t'écoute pas, en fait.
Et je rejoins notre auditeur pour le coup, par rapport à son avis.
Bah, ça, moi, je suis pas loin d'être d'accord. En tout cas, ce soir, on va voir les quatre offensifs. Je pense qu'avec Marcus Thuram, Kylian Mbappé, est-ce qu'il va être à gauche? C'est la vraie question. Est-ce qu'on sait ça, s'il est à gauche ou il est en pointe?
Fabrice, est-ce que tu as des éléments?
A priori en pointe, mais ça demande confirmation. Moi, il y a deux choses moi qui m'intéressent dans cette composition d'équipe, si vous voulez tout savoir. C'est le positionnement de Kylian Mbappé. Je pense qu'il va jouer devant, très honnêtement, parce qu'ils ont déjà joué comme ça avec Marcus Thuram à gauche et Mbappé devant, ce qui ne les empêchera pas de permuter, un peu comme avait fait Hugo Ekitike et Kylian Mbappé.
Moi, je vois plus ça en fait. Ils vont échanger de position. Les deux peuvent jouer dans les deux positions. Donc, à mon avis,
que ça va être ça. Et ensuite, on parlera du positionnement d'Olise.
Pas que, c'est la même chose avec Cherki, avec Olise. Ça se déplace énormément. On l'a vu sur les derniers matchs. Alors, la grosse problématique, c'est de créer un déséquilibre. Mais c'est vrai que sur ce qu'on a vu sur les deux dernières sorties, en règle générale, les joueurs ont été assez intelligents pour se couvrir chacun l'un et l'autre. Moi, j'avais un peu peur sur le Marcus Thuram Mbappé, cette association. Je me rappelle qu'il se marchait un petit peu sur les pieds, donc on va voir ce que ça va donner. Après, ça va nous donner aussi un petit peu des réponses par rapport à l'investissement défensif de Kylian Mbappé s'il devait jouer sur le côté gauche.
Exactement, ça va être une curiosité. Et donc Pierre, qu'est-ce que vous étiez en train de vous embrouiller sur Mbappé, c'est ça, quand je suis revenu?
Non, on s'est pas embrouillé sur Mbappé.
C'est une discussion animée.
Voilà. On était en train de se demander si Kylian Mbappé allait jouer justement en pointe ou plus sur le côté gauche. Maintenant, il y a quand même une problématique. Ça va être qu'est-ce qui se passe sans le ballon. Parce que c'est bien beau de permuter beaucoup offensivement, mais ensuite il faut que les positions soient quand même tenues défensivement à la perte du ballon. Et c'est là.
C'est
où
précisément pour ça que Marcus Thuram va jouer dans une position à gauche, à mon sens, parce que c'est à lui que va revenir ce sale boulot entre guillemets d'aller couvrir le côté gauche avec Théo Hernandez, avec Adrien Rabiot aussi, ce qui n'empêchera pas Kylian Mbappé de faire les efforts. En tout cas, à minima, c'est ce que le staff attend de lui, c'est ce que les autres joueurs attendent de lui, et sur les derniers rassemblements, il a plutôt bien fait.
Alors, qu'il défende ou pas, Mbappé, on s'en fout en fait. Deschamps, il a toujours assumé que si Mbappé il défendait pas, il s'en foutait. Que en gros, l'équipe autour de lui, elle devait défendre pour que lui soit dans les meilleurs.
Ça marche tant que ça gagne.
Mais ça, et surtout, ça fonctionne quand il joue numéro 9. Tu peux pas avoir un Kylian Mbappé positionné à gauche.
Non, je suis pas d'accord.
Surtout pas avec Didier Deschamps.
2018 et 2022, il était sur un côté, il défendait pas.
Bah, il défendait pas parce que t'avais Blaise Matuidi.
2018,
il couvrait
plus
parce
quand même.
2018,
il couvrait partout. Et 2022, il jouait plus à deux attaquants avec Giroud, du coup.
Mais bien sûr, il avait pas le même statut, il avait pas le même boulard, excusez-moi du terme, mais en règle générale, il est quand même beaucoup plus collectif. Là, aujourd'hui, t'as une équipe de France qui joue pour Kylian Mbappé. Quand il arrive en 2018, messieurs, excusez-moi, il est au service du collectif. Même si ça n'enlève pas les qualités individuelles qu'il a, attention.
Mais ça, l'équipe de France qui joue pour Kylian Mbappé, je pense que ça va être de moins en moins vrai. Même si ça reste le leader, on sait que de toute façon, pour que l'équipe de France aille loin, il faudra un grand Kylian Mbappé. Mais à côté de lui, il a des joueurs de très très haut niveau qui veulent aussi se montrer, qui veulent aussi être performants, qui n'entendent pas se faire marcher dessus. Et je suis pas sûr que ce soit le tout pour Kylian Mbappé.
Et ça me fait un peu
désolé, mais si ce que tu dis c'est vrai,
évidemment que c'est vrai.
Ça sent 2010 alors, où ça va s'embrouiller tout le temps.
Non, il y a absolument pas de pression. Ils s'entendent très bien justement. C'est ce que j'allais te dire par rapport à 2010, et c'est la très grande différence, c'est qu'ils s'entendent très bien. C'est pas parce que ils ont pas. C'est pas parce que je te dis qu'aujourd'hui ils veulent tous briller. Qu'ils vont se tirer dans les pattes. Au contraire, Ousmane Dembélé s'entend très bien avec Kylian Mbappé et ils ont très bien intégré Olise. Donc si ça marche pas, on pourra pas dire que c'est parce qu'ils s'entendent pas.
Ouais, mais là je te rejoins, Fabrice. Moi j'ai un peu peur de la guerre des égos. Alors pour l'instant ça a l'air d'aller. Tout le monde a l'air d'être copain avec tout le monde et ça sera sûrement le cas parce que aussi les résultats suivent. On a été dans les vestiaires, on sait comment que ça se passe en règle générale dans un club de foot, même comme dans une sélection. Et quand les résultats commencent à être un petit peu plus poussifs, c'est là qu'on voit vraiment le vrai caractère des joueurs. Bah, attention, moi, je pense qu'on est tous très positifs sur cette équipe de France. Qualitativement, je pense que c'est peut-être la meilleure sélection de ce mondial. Je me pose juste la question par rapport à cet aspect un petit peu mental, cet aspect un petit peu équipe en règle générale. Attention, si jamais le premier résultat, parce qu'on sait que les deux premiers matchs c'est des matchs compliqués, le Sénégal, la Norvège, c'est quand même pas des équipes.
L'Irak, excuse-moi.
En tout cas, le Sénégal, c'est quand même le premier match. On sait que c'est un match qui est compliqué. Il faudrait pas que justement, s'il y avait un petit peu un match poussif de la part de l'équipe de France, que cette bonne entente soit remise en cause.
Alors Pierre, merci d'être venu au 32-16. Je te souhaite une bonne soirée. Dans cet avant-match, il faut aussi avoir en tête donc que Mbappé peut battre le record d'Olivier Giroud. Il est à un but du record de Giroud. Et ce serait quand même un clin d'œil du destin incroyable, puisque donc Giroud a pris le record à Thierry Henry. Et Thierry Henry a pris le record à Michel Platini, ici même, le 17 octobre 2007, à la Beaujoire, à Nantes, dans un match où Henry avait mis un doublé ce soir-là, contre la Lituanie, il me semble. Et donc, il avait porté son total à ce moment-là à 43 buts. Il était devenu le meilleur buteur de l'histoire
victoire des Bleus. Donc Mbappé, s'il met un doublé, peut peut-être atteindre ce rang-là. Et si c'est pas pour ce soir, ce sera pour un autre moment, sans aucun doute. Match particulier ici à Nantes également pour les deux sélectionneurs, puisque ce sont des anciens Nantais qui ont grandi à la Jaunelière. Emers Faé et Didier Deschamps. Et Pierre-Yves Leroux est avec nous, notre correspondant dans l'Ouest. Salut Pierre-Yves.
Salut Jean-Louis. Salut Bill. Bonjour à tous.
Ah bah, Deschamps ici, c'est particulier. Il y aura un hommage d'ailleurs pour lui à la 7ème minute.
Oui, exactement. Bah, vous savez, ça remonte à longtemps maintenant, et c'est ce qu'il a dit, Didier Deschamps. Il dit ça parle plus aux jeunes. Il est arrivé, il avait à peine 15 ans de Bayonne. C'était une découverte de Robert Budzinski, l'ancien directeur sportif, et de Jean-Claude Ciodo, qui s'était déplacé au Pays Basque un jour de pluie et qui avait observé un joueur de cette équipe de Bayonne. Mais surtout, c'était pas Didier Deschamps qu'il venait voir, c'était un autre joueur. Et puis à la mi-temps, Jean-Claude Ciodo avait dit à Robert, bah, on peut rentrer, j'ai vu ce que je voulais. Ah bon, mais tu veux pas rester tout le match? Non, c'est le petit là qui parle tout le temps, qui crie, qui donne des ordres que je veux, et c'est lui qu'il faut faire venir. Et voilà comment ça s'était passé. Il était monté donc à la Jaunelière, il est devenu rapidement capitaine des cadet. Très vite, il a commencé à s'entraîner dans le groupe pro, souvent avec Marcel Desailly, qui est la même génération. Et puis là, comme en témoigne Yvon Leroux, qui était à l'époque défenseur central, international, qui faisait partie déjà des cadres, eh bien les petits jeunes n'avaient aucun complexe, et surtout Didier avait une grande qualité.
Écoutez, Kylian est en pleine forme, physiquement.
Ah, non, là... Là, c'est Deschamps sur Mbappé, mais on va pouvoir entendre ce que...
On va entendre Yvon Leroux. Yvon Leroux, qui était évidemment un joueur majeur, passé par Brest aussi.
Tiens, juste avant qu'on l'entende, Pierre-Yves, les gardiens arrivent à l'échauffement ici à La Beaujoire. C'est pour ça que vous entendez une petite clameur, même si La Beaujoire est encore loin d'être pleine pour cette rencontre.
Leroux, Pierre-Yves, c'est le papa du joueur?
Non. Non, ça s'écrit en deux mots.
Okay. Il y en a plein des Leroux, non, dans l'Ouest.
Ouais, c'est comme la moelle. Louis, il y en a partout.
Bon, j'aurais essayé. J'aime beaucoup Leroux.
Le Nantais, enfin celui qui joue actuellement.
Oui. Et Christophe aussi, qui a été
à Guingamp.
Club dans l'Ouest, exactement. À Rennes, à Nantes aussi. Christophe Leroux, là, c'était en deux mots. Et là, on écoute Yvon Leroux.
Oui, parce que là, on n'était pas loin de raconter nos villes.
C'est un bosseur, s'il a toujours travaillé. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. À 20 ans, voilà, on a l'impression qu'il avait déjà 10 ans de carrière derrière lui. Parce que c'était un meneur d'hommes, il lâchait rien. Zidane, Platini, c'est naturel chez eux. Didier, c'était un bosseur. Il a bossé pour arriver où il est. Et puis, il a d'autant plus de mérite. Quand les jeunes du centre venaient s'entraîner avec nous, ils venaient pas là un peu timides, timoureux. Non, ils jouaient le jeu à fond. Et puis, moi, je me rappelle, quand on faisait des matchs avec le centre, c'était plus compliqué que certains matchs de Ligue 1.
Voilà, ils avaient peur de rien, les deux saillies, les Deschamps, quand ils montaient à 16-17 ans déjà dans le groupeau. Et puis il va faire ses débuts en Division 1 à l'époque, le 27 septembre 85. Et l'anecdote, ce qui est amusant, c'est que ce jour-là, contre Brest, il remplace Vahid Halilhodžić à la 20e minute. Donc vous imaginez bien que c'était pas du poste pour poste. Vahid, il vient de terminer cette saison-là, enfin la saison d'avant, meilleur buteur du championnat, mais l'ancien attaquant et entraîneur du FC Nantes, il a vu grandir Dédé, et il reste lui aussi marqué par sa maturité à l'époque.
C'est un garçon qui avait beaucoup de talent, mais c'est surtout son application sur le plan défensif, dans la récupération d'enchaînement rapide. Il récupère, il donne plus rapidement le ballon aux joueurs qui sont plus offensifs, comme ça. Mais il était toujours très, très discipliné dans le travail. Grâce à ça, il a un palmarès phénoménal. Et comme joueur, comme entraîneur, la carrière qu'il a fait, c'est quelque chose de fantastique. Il faut le féliciter et tirer grand, grand chapeau.
Et c'est amusant, Jean-Louis, on en a été témoin hier avec Valentin Jamin et avec Arthur Perrault pendant la conférence de presse. Didier Deschamps, il a été interrogé deux fois sur son passé nantais et il n'a pas voulu parler de ces années-là. On a senti qu'il bottait en touche et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions parce que ces années de jeunesse, elles ont été marquées aussi par deux drames. C'est la mort de Seth Adoncor, qui était le demi-frère de Marcel Desailly, qui était vraiment un grand espoir du football français, et puis son propre frère, Philippe, en 1987 dans un accident d'avion. Mais en revanche, il n'a pas oublié, mais il ne veut pas trop en parler. Hier, il est passé saluer les éducateurs du district de Loire-Atlantique et aussi Reynald de Noëx chez lui, son ancien formateur à la Jaunelière qui est malade depuis quelques années, qui habite tout près du stade de La Beaujoire et de l'hôtel où logent les Bleus. Donc voilà, il est très très attaché malgré tout à ces années-là, même s'il ne veut pas trop en parler.
C'est amusant, Kevin. Bon, on met de côté évidemment l'aspect perso qui est intéressant à rappeler là, comme vient de le faire Pierre-Yves, mais juste d'un point de vue foot, il est très attaché à Nantes. Pourtant, on peut pas dire que ce qu'il est prôné, ce soit du jeu à la nantaise toute sa carrière.
Mais écoute, c'est pas le premier joueur qui a été formé comme ça dans un club qui prenait du jeu, mais qui son jeu en tant qu'entraîneur, il est pas vraiment à l'image de son club formateur. Par contre, il est à l'image du club, du joueur qu'il était. Oui, parce que c'est un joueur très sobre, c'est un joueur posté devant la défense. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le numéro de Didier Deschamps pour France 98 sur leur maillot. Reste un joueur de l'ombre, un joueur qui était besogneux, qui était quand même juste techniquement, mais qui n'était pas un joueur flamboyant.
Et son joueur beaucoup, de France, ce qui était important dans le jeu à la nantaise.
En effet. Non, mais il courait beaucoup, mais aujourd'hui, tu sais, n'importe quelle équipe court beaucoup, toutes celles qui ont le ballon.
Vrai, tu as complètement raison, il n'était pas dans le jeu à la nantaise, mais il avait cette qualité-là qui permettait de s'intégrer quand même dans ce que prenaient à l'époque les Jean-Claude Clodo ou les Ronaldo.
Ce qui est drôle, c'est que Marcel Desailly ne peut pas dire que c'était le jeu à la nantaise toute sa
non
carrière.
Non plus.
Et d'ailleurs, leurs années pro ne sont pas des bonnes années au niveau des résultats, parce que dans les années 85-89, c'est aussi le moment où Blazevic vient entraîné et il n'y a pas trop de résultats, alors que dans les 10 années qui ont précédé, c'est à chaque fois premier ou deuxième au classement, et ça ne sera pas le cas dans les années où Marcel Desailly et Didier Deschamps seront dans l'équipe pro.
Bon, voilà pour Deschamps. Et Emers Faé, il a laissé un bon souvenir aussi à Nantes?
Bien sûr.
Pas pareil, bien sûr, mais...
Non, mais c'était un gros bosseur, un grand talent également, et puis aussi une personnalité très sympathique. Et c'était encore, Emers Faé, une période où le FC Nantes brillait un petit peu, ce qui depuis 20 ans n'est plus trop le cas, vous en conviendrez. Et donc c'est un très bon souvenir pour les supporters nantais, Emers Faé, bien sûr.
Exactement. Bon, et toujours pas d'entraîneur à Nantes ? Nos amis d'Ouest France parlent de Michel Derzakarian.
Non,
il faut dire qu'Antoine Comboiré est en poste.
Ouais, alors écoute, je vais être très franc, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun contact, ça a peut-être changé depuis, qu'il était intéressé si on venait vers lui, mais je sais que la direction nantaise a beaucoup de mal pour l'instant à trouver un entraîneur.
Bon, on leur souhaite bon courage. Je ne sais pas si Valdemar Quita sera là ce soir, par hasard.
Non, j'ai pas l'information. Mais il n'est pas venu au dernier match de Nantes, ça serait surprenant qu'il vienne à un match de l'équipe de France.
Bah non, en fait, ce serait pas surprenant du tout. On est connaissant Valdemar Quita. Merci Pierre-Yves, bonne soirée. C'est toujours sympa quand même, c'est un peu impensif, mais quand l'équipe de France se déplace en province, on sent quand même qu'il y a une atmosphère, un parfum un peu particulier, alors qu'au Stade de France il y a un côté habituel. Là on sent que c'est exceptionnel.
Ouais, puis voilà. Ça donne aussi la chance, justement, tu l'as dit, à tout le peuple français de pouvoir voir l'équipe de France en vrai. C'est vrai qu'à Paris, eh bien, il faut pouvoir y monter. Je me rappelle, moi, avec le Luxembourg, y avoir joué à Metz contre l'équipe de France, et on sentait justement un engouement dans la région Lorraine. Donc ouais, je trouve que c'est une bonne chose, en effet, de pouvoir délocaliser les matchs de l'équipe de France de manière à, voilà, et en même temps c'est aussi la popularité de l'équipe de France avant une grande compétition. C'est bien de pouvoir le partager avec le peuple français.
Les voilà, les Français à l'échauffement ici à la Beaujoire. Alors l'un des éléments de la compo d'équipe, c'est donc l'absence de Saliba, touché au dos. Alors Deschamps était très rassurant hier en disant s'il avait fallu jouer absolument, il aurait pu jouer. D'ailleurs, il vient de sortir à l'échauffement là, William Saliba. Mais du coup, la défense centrale, ce sera Konaté ou Upamecano. Est-ce que Fabrice, par rapport aux infos que tu as en interne, la charnière qu'on peut imaginer titulaire ou Upamecano Saliba, est-ce que Konaté peut changer les choses dans l'idée de Deschamps, ou est-ce qu'il part
de
trop loin?
Ça va dépendre de Saliba. Ça va dépendre de Saliba, de sa capacité à se remettre et à être performant. À partir du moment où il revient, où il joue à son niveau, c'est lui qui sera aligné avec Dayot Upamecano. C'est prévu comme ça depuis un petit moment maintenant. Ils se sont préparés comme ça depuis le début de la saison. Dès qu'ils sont disponibles, ce sont les deux qui jouent, donc il n'y a pas de sujet. Maintenant, si Saliba met du temps à revenir, on sait qu'il a une petite gêne au dos, ils ont fait des résultats, finalement ça allait, on l'a dit sur RMC Sport. Mais si jamais il revient, qu'il a un petit peu mal et que Ibrahima Konaté a la bonne idée d'être performant ce soir et demain, et lundi, je veux dire, contre l'Irlande du Nord, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça reste un défenseur de très haut niveau, Ibrahima Konaté. Il va jouer sa chance crânement. Je sais qu'il a été très déçu d'être sur le banc de touche à l'Euro 2024, et il espère bien lui piquer sa place.
Après, si je peux me permettre, ancien défenseur, il y a quelque chose à prendre en considération. C'est vrai que Saliba, il a la possibilité de pouvoir jouer axe gauche de la défense. Ce qui n'est pas forcément le cas, évidemment, s'il n'est pas là. Ça voudrait dire que si Saliba est absent, c'est Upamecano qui jouerait à gauche, j'imagine. Et Konaté qui rentrerait sur son pied droit, axe droit. Et donc, c'est quand même une grande différence parce que Saliba, il a cette capacité de pouvoir casser les lignes et d'être à l'aise sur ce poste d'axe gauche. Donc, à voir ce que ça va donner. Alors, évidemment, Konaté et Upamecano ont déjà joué ensemble. Mais je pense que de perdre Saliba en construction, c'est forcément un petit peu préjudiciable pour cette équipe de France. Ouais.
Bon, de toute façon, hein, c'est une hypothèse, hein, parce que normalement, ça ira pour Saliba et il devrait être là pour le début de la Coupe du Monde, donc face au Sénégal le 16. Sachant que je vous rappelle qu'il y a un dernier match de préparation contre l'Irlande du Nord, ce sera à Lille lundi prochain et que c'est prévu pour mercredi prochain le grand départ pour Boston pour les Bleus. Voilà pour la défense centrale. Ah, si, quand même, les infos Saliba. Donc, le Real, c'est fait, hein, on l'a annoncé sur RMC Sport.
Konaté, tu veux dire, oui.
Konaté, pardon. Donc au Real, il y a
pas totalement. Hein,
j'allais dire c'est pas signé, mais a priori il y aura pas de retournement de situation. Faut jamais l'exclure dans le foot.
Moi je vais pas l'exclure. Surtout sur ce dossier-là, a priori ça va se faire. Surtout si Florentino Pérez est élu, il y aura deux conséquences évidemment. C'est l'arrivée de José Mourinho sur le banc, l'arrivée également de Denzel Dumfries arrière droit, et puis donc Ibrahima Konaté avec qui les négociations sont très bien avancées. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut garder en tête. Ibrahima Konaté, forcément, comme il dépend aussi de la nomination de Florentino Pérez, il continue à regarder un petit peu ce qui se passe. Je sais qu'il a des offres écrites de certains gros clubs européens, et tant que c'est pas bouclé avec Florentino Pérez, on peut imaginer que tout peut se passer.
Bon, voilà pour l'avenir de Konaté. On vous tiendra au courant, bien sûr, sur rmcsport.fr. On revient dans une seconde pour présenter cette équipe de Côte d'Ivoire avec nos invités. On demandera notamment à Gervinho, qui sera avec nous dans une seconde, si Yann Diomandé, qui est un peu son héritier hein, sur le côté gauche de l'attaque de la Côte d'Ivoire, a tout pour réussir au PSG, puisqu'il a dit hier que c'était le club de son cœur. A tout de suite dans l'After Live spécial France-Côte d'Ivoire. L'avant-match continue sur RMC.
RMC, l'After Live. Jean-Louis Tour.
Il est 20h30, on est en direct de la Beaujoire à Nantes, à 40 minutes maintenant du coup d'envoi de ce premier match de préparation en vue des États-Unis, en vue de la Coupe du Monde. France, Côte d'Ivoire, ici à Nantes. Fabrice Hawkins à mes côtés, Maxime Chanot et Kevin Diaz de la Dream Team. Et on va tout savoir de cette sélection de Côte d'Ivoire désormais avec nos deux invités. Patrice Baumel, ancien sélectionneur de 2020 à 2022. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Gervinho, légende de la sélection, 86 sélections, champion de France avec Lille. Salut Gervinho.
Bonsoir, salut à tous. Salut.
Oh là on a deux spécialistes, hein. Franchement.
Deux
pourquoi il rigole tout de suite, Gervais? Patrice, déjà, est-ce qu'on doit s'inquiéter, nous, Français, face à l'opposition de la Côte d'Ivoire, ou même sans s'inquiéter, est-ce qu'on doit se dire que c'est une belle opposition pour déjà rentrer un peu dans la Coupe du Monde?
S'inquiéter, disons que à chaque fois que les éléphants ont joué la France, ça a toujours été des très belles oppositions. Pour ma part, j'avais joué au Vélodrome en 2022 contre la France, qui était championne du monde en titre à l'époque. Et on avait fait une très belle partie où on avait ouvert le score. On a longtemps été un partout. Et puis, dans les arrêts de jeu, on avait concédé un corner et on avait encaissé un but. On avait perdu 2-1, mais ça avait été un très bon match. J'ai le souvenir, je crois, aussi à Nantes que la Côte d'Ivoire était allée faire match nul un partout, me semble-t-il. C'est toujours des belles oppositions parce que les joueurs ivoiriens, la plupart jouent en Europe et ils sont adaptés à ce football-là. Et donc, je pense que ça va être ce soir un match très intéressant à suivre.
La plupart ont connu, ou connaissent, ou ont été formés en France aussi. Hein. Donc ça aussi, ça rapproche aussi les deux sélections. Gervais, t'es pas au match? T'as pas pu venir?
Non, je suis pas au match, je suis dans le Nord.
Bon, d'accord. Tu penses qu'à Côte d'Ivoire a une chance?
Ah. On a toujours une chance, hein, je pense. Voilà. Après, je pense que si... on joue en équipe, je sais qu'on a une belle attaque, mais si on défend ensemble, on attaque ensemble, on a une belle équipe. Je pense que, et comme l'a souligné Baumel, je pense que chaque opposition contre la France, je pense qu'on a toujours créé des soucis à la France. Après, ça, c'est un bon match pour la préparation et pour la Coupe du Monde, que ce soit des équipes. Mais je pense qu'on espère gagner, mais ça serait un bon match pour la suite de la Coupe du Monde. Je pense que c'est que pour l'instant, on recherche là. Je pense que c'est la cohésion du groupe. Et
Oui, c'est un bon match de travail pour ça. Je rappelle, la Côte d'Ivoire est dans le groupe avec l'Équateur, l'Allemagne et Curaçao. Donc, faut espérer sortir du groupe, hein. Fabrice.
Oui, Gervais, sur les matchs comme ça, est-ce qu'il peut y avoir aussi un petit sentiment de revanche pour des joueurs qui, pour certains, sont nés en France, d'autres ont été formés, certains comme Eli Wahi ont joué en équipe de France Espoir, par exemple. Est-ce que c'est un surplus de motivation, ça, quand on joue l'équipe de France?
Non, pas de revanche. Je pense qu'ils ont fait le choix d'être avec la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils sont contents d'être avec la Côte d'Ivoire maintenant. Mais ils se connaissent tous, c'est des coéquipiers aussi. Je pense qu'ils se côtoient en club, comme en dehors du club. Ils sont contents de pouvoir jouer contre la France aussi. Mais ça ne sera pas une revanche, je ne pense pas.
Ouais. Patrice, dans le profil de cette équipe, on a l'impression qu'il va falloir se méfier des transitions. Hein. Quand il y a Diomandé, Wahi, Adingra, ça peut aller vite vers l'avant, hein, devant.
Oui, on connaît les qualités de ces joueurs. On les a vus, j'avais pu suivre la dernière Coupe d'Afrique. C'est des joueurs qui sont habitués.
Sortis en quart de finale
aujourd'hui. Exactement. Pour Wahi, c'est sa première. Je sais qu'en 2020, je l'avais sollicité pour à l'époque il était plus parti pour jouer avec l'équipe de France, mais aujourd'hui il fait le choix de venir avec les éléphants. Il a marqué des buts importants la semaine dernière pour le maintien de Nice, donc je pense que arriver dans cette compétition en pleine euphorie, confiance, vouloir bien faire avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est de bonnes choses. Les Diomandé, les Adinga, les Diakité, ce sont des joueurs de percussion qui aiment les défis, un peu à l'image de notre Gervais, la flèche, qui aimait aller prendre les espaces, jouer de l'avant, dribbler, faire des différences. C'est ce qu'on aime. Hein. On aime ces joueurs ivoiriens qui sont toujours dans le défi, qui ont envie d'aller provoquer, de gagner des duels, de dribbler. C'est un football pour moi qui est toujours vers l'avant. Et c'est ce qui me plaît avec la Côte d'Ivoire, c'est que les joueurs passent et il y a toujours cette caractéristique d'animer sur les côtés, d'aller défier, d'aller rentrer dans les surfaces, frapper. On le voit aussi avec Amad Diallo, des joueurs de percussion. Et je pense que ça va être une belle opposition, mais comme le disait Gervais, c'est important. Ce soir, c'est un match de préparation. L'essentiel est de pouvoir bien figurer dans ce groupe contre l'Équateur et l'Allemagne et Curaçao, parce que c'est un groupe très ouvert où tout est possible et où la Côte d'Ivoire a vraiment, vraiment des chances de pouvoir sortir des poules et continuer la compétition le plus longtemps possible.
Alors, on a cité Yann Diomandé, donc 19 ans, il joue à Leipzig, il a 9 sélections, 3 buts, et Fabrice, beaucoup de gens l'imaginent au PSG l'année prochaine. D'ailleurs, il a déclaré un peu sa flamme hier en conférence de presse au PSG.
Ouais, effectivement, en disant que c'est un club qu'il a toujours apprécié, que dans sa famille aussi, on apprécie le Paris Saint-Germain, notamment son papa. Yann Diomandé, ce qui est sûr et certain, c'est que s'il quitte Leipzig cet été, ça va être pour un très 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 gros club, ou le Paris Saint-Germain, ou Liverpool, ou d'autres. Je sais qu'il y a des négociations déjà avec les Anglais qui sont vraiment chauds pour l'accueillir. Le Paris Saint-Germain n'a pas encore activé réellement la piste, même si c'est un joueur qui fait partie de la liste du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos. Maintenant, il va falloir voir ce que demande Leipzig, parce que de ce que j'ai compris, il demande beaucoup.
Ils l'ont pris 20 millions déjà. Hein. Ouais, et sachant qu'entre temps, il a fait une saison à 13 buts, 10 passes D. Ouais. Donc forcément, à 19 ans, ça peut exploser.
Moi, j'ai entendu le chiffre de 120 millions d'euros minimum.
Ah oui, d'accord.
Donc à ce prix-là, je pense qu'il y a une ristourne de la part de Leipzig, ou je pense pas que le Paris Saint-Germain va se positionner. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est dans la liste et c'est un joueur qu'il faudra surveiller cet été sur le mercato.
Gervais, tu le surveilles, c'est ton héritier?
J'ai plein d'héritiers, il y a Yann, il y a Dengra, il y en a plein. Mais nous, on souhaite qu'il fasse un bon choix, parce qu'on aura besoin de lui pour guider cette attaque de la Côte d'Ivoire aussi.
Eh oui, bien sûr. On va le surveiller avec attention. Yann Diomandé, donc, sur le côté gauche de l'attaque de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si Kevin ou Max, vous avez une question pour Gervais ou pour Patrice Baumel.
Écoute, moi je vais leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de l'éventuel parcours de l'équipe de France de Didier Deschamps.
Patrice.
L'équipe de France arrive, je pense, avec beaucoup de confiance. Quoi qu'on dise, c'est la dernière de Didier Deschamps qui a écrit l'histoire, qui a continué d'écrire l'histoire de l'équipe de France, mais qui a contribué en tant que joueur aussi sélectionneur. Bien sûr, je souhaite le plus beau parcours pour l'équipe de France parce que depuis toutes ces années, elle nous fait rêver, quoi qu'on dise. c'est l'équipe nationale dans le monde entier qui a certainement les meilleures statistiques, les meilleurs résultats depuis même la Coupe du Monde 98, avec beaucoup de finales, avec des titres, avec des finales perdues. Mais voilà, c'est une équipe qui est complète. Il y a des jeunes, il y a de l'expérience, il y a de tout, il y a de la fougue. Il faut simplement qu'ils puissent récupérer de toutes leurs émotions pour ceux qui ont gagné la Champions League, pour ceux qui ont joué dans les clubs. Il faut qu'ils arrivent avec beaucoup d'énergie parce que je pense que c'est une compétition qui va être longue et sur un continent où voilà, il y a des décalages horaires, il y a pas mal de composantes. C'est ceux qui peuvent jouer des tours, mais bon voilà, l'équipe de France reste une grande nation du football et je souhaite qu'elle aille le plus loin possible et qu'elle nous fasse rêver.
On a souvent l'habitude de dire, on en parlait d'ailleurs sur RMC, peut-être que cette équipe ivoirienne a été choisie aussi par le staff de l'équipe de France parce qu'ils vont jouer le 16 juin prochain leur premier match contre le Sénégal, donc une autre équipe africaine. Est-ce que il y a des similitudes entre ces deux équipes, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ou pas du tout?
Déjà, 2002, il faut faire attention parce que c'était un mauvais souvenir pour la France, démarrer une compétition face à une équipe du Sénégal qui peut avoir des similitudes dans l'animation offensive, dans ce football de l'Afrique de l'Ouest qui est fait de défis, de courage. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup de caractère, de charisme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai qu'on peut avoir des similitudes dans les caractères, les qualités de ces joueurs ou qui aiment les défis défensifs. Quand je vois Wilfried Tsingo, Emmanuel Agbadou, ce sont des joueurs qui aiment défendre. Et au Sénégal, on voit que c'est une équipe qui a pris aussi beaucoup d'expérience à défendre ensemble. Gervais l'a dit tout à l'heure. C'est ceux qui, à l'époque, pouvaient faire, il y a 20-30 ans, des différences en Afrique. C'est qu'ils n'avaient pas cette expérience. Aujourd'hui, Ces équipes nationales du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, ils savent jouer, ils connaissent, puisque tous les week-ends, ils jouent dans les plus grands clubs européens. Et donc oui, ce choix est judicieux pour la Côte d'Ivoire parce qu'ils vont jouer l'Allemagne, et bien sûr pour la France parce qu'ils vont jouer le Sénégal. Donc ce choix n'est pas anodin. Voilà, mais ça va être un bon test parce que, comme je vous ai dit, à chaque fois, ce sont des matchs très ouverts où ils se connaissent tous, ils se respectent tous et ils vont jouer, ça va être un match ouvert, j'en suis sûr. Mais ces choix-là sont pas anodins, bien sûr.
Oui, j'avais une question par rapport à Kylian Mbappé, Patrice, toi en tant qu'entraîneur, c'est vrai qu'on a le débat autour du positionnement de l'attaquant de l'équipe de France. Comment toi tu vois un petit peu cette situation avec un Ousmane Dembélé très performant avec le Paris Saint-Germain en tant qu'attaquant de pointe, un Kylian Mbappé qui est malgré tout décrié. Alors évidemment, je vais pas aller te demander d'aller contre Didier Deschamps, mais comment toi tu te positionnerais par rapport à cette situation-là? Est-ce que tu mettrais Kylian Mbappé sur la gauche, au risque peut-être de déséquilibrer l'équipe de France? Qu'est-ce que tu en penses?
C'est vrai que c'est toujours beaucoup de questionnements. Après, dans ma façon de travailler d'entraîneur, moi je regarde souvent les nuages de points, les sources de chaleur. Et on a beau mettre Kylian Mbappé à gauche, à droite, en pointe, ses zones de prédilection où il est toujours le plus dangereux, c'est, on va dire, côté en pointe à gauche. Il aime rentrer sur son pied droit. Donc, il aura beau le mettre attaquant de pointe qui va dézoner. Et c'est ce qui a posé pas mal de problèmes au Real Madrid. Donc, c'est des zones de prédilection. Et c'est difficile pour un joueur de le changer. Et on voit tout le temps, que ce soit Real Madrid ou en équipe de France, Kylian, il aime aller sur ce côté gauche. On va parler de Gervais. Gervais, il aimait rentrer sur son pied droit. Et dans toute sa carrière, c'était sa zone de prédilection. Alors il y a des coachs qui ont pu le mettre comme attaquant, deuxième attaquant, mais au final, ces zones de chaleur sont comme ça, et donc il faut pouvoir s'adapter. L'idée c'est de pouvoir laisser Dembélé, qui lui est plus pointe côté droit par contre. Donc ça peut être complémentaire, c'est pas là où ils vont se gêner. Là où Kylian peut gêner, c'est s'il y a du Barcola, s'il y a des joueurs qui vont venir à gauche. C'est là où ils peuvent se gêner. Mais moi, je pense que c'est juste un problème d'adaptation et de pouvoir accepter. Par contre, parfois, j'ai beau regarder les matchs, Kylian, c'est pas un garçon qui aime défendre. Et c'est là où il va falloir que l'équipe accepte parfois de pouvoir défendre sans lui, parce qu'il a tendance. Exactement. Et ça, il faut pouvoir l'accepter. C'est tout.
Très bien, merci Patrice. Vous êtes vas-y vite fait Kevin.
Quand Patrice, tu parles de zone de chaleur, c'est la heat map en anglais, mais en gros c'est la position moyenne de Kylian Mbappé sur le terrain.
Oui, je crois que c'était clair, mais tu as bien fait de préciser. Voilà, précise pour les auditeurs. Patrice, merci. Vous cherchez un club là, après Tunis, vous cherchez un projet?
Je suis rentré il y a une petite semaine de l'Espérance de Tunis et puis une petite pause pour suivre la Coupe du Monde. Et après, en football, tout peut se passer, tout peut aller très vite. Mais bon, voilà, je viens juste de rentrer de cette belle expérience en Tunisie avec l'Espérance.
Et ben merci Patrice Baumel.
Tu peux déposer ta candidature aussi pour l'équipe de France.
Et pourquoi pas.
J'espère te revoir bientôt et je suis fier de toi, de tout ce que tu as fait, Gervais. Je t'embrasse fort.
Merci beaucoup, à bientôt. Okay.
Et toi Gervais, qu'est-ce que tu fais alors? T'es dans le foot?
Je resterai toujours dans le foot. Là je suis rentré du Maroc il n'y a pas longtemps parce que je suis avec les jeunes de la Côte d'Ivoire, les U17. On s'est fait éliminer. Donc je suis chez moi dans le nord à Lille.
Ouais.
Et en attendant que la Coupe du Monde démarre pour aller avec RMC. Et désolé, Beansport.
Ah oui, parce que nous on n'était pas au courant, mais bon.
T'es le bienvenu.
Bon, ok, avec plaisir. Bien sûr. Ah, donc tu y vas avec Beansport, ok. Ah, c'est bien ça. Et tu seras où à la Coupe du Monde précisément?
Non, je ferai ça sur Paris.
Ah, sur Paris, d'accord. Ok, ah ouais. Gervais, merci beaucoup. On se rappelle peut-être pendant la Coupe du Monde. Ça a été un plaisir de t'entendre, en tout cas.
Okay,
à bientôt sur RMC, légende du foot ivoirien, donc Gervinho avec nous sur RMC. On revient dans quelques secondes et on va parler de la logistique. Cette Coupe du Monde hyper chère, est-ce que ça va vous gâcher votre plaisir? On a plein d'infos à vous donner en plus sur les problématiques de primes et de places octroyées aux joueurs. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Jean-Louis Tour.
Il est 20h47, ça approche le coup d'envoi de ce France-Côte d'Ivoire ici à Nantes, à La Beaujoire. Fabrice Hawkins avec nous, Maxime Chano et Kevin Diaz. Et on va aborder un problème qui touche la Fédé en ce moment, c'est que cette Coupe du Monde, elle coûte hyper cher. Du coup, c'est un gros budget qui doit être sorti et ça pose quelques problèmes que va nous détailler Arthur Perrault qui est avec nous ici à La Beaujoire. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à toutes et à tous.
Ça coûte cher, déplacement, hébergement, donc faut,
pour tout le monde.
Faut tailler un peu partout. Hein.
Oui, et cela amène d'abord... le sujet des primes. On sait que historiquement c'est toujours quelque chose qui est négocié avant chaque grande compétition de l'équipe de France. Là il y a déjà des discussions entre la FFF et les joueurs. Une issue positive est attendue rapidement à la fédération. On assure que les primes promises aux joueurs pendant le mondial ne baisseront pas, même si le modèle de distribution lui pourrait changer. Il s'agirait d'un système où la performance serait valorisée. Les joueurs pourraient même toucher plus que les années précédentes s'ils atteignent les objectifs fixés, à savoir les demi-finales. Malgré une dotation rehaussée de 15% par la FIFA à 744 millions d'euros, la logistique de ce mondial va coûter très cher, comme tu le disais Jean-Louis. Il y a 3 ans et demi, à titre de comparaison, lors de la Coupe du Monde au Qatar, la prime attribuée à chaque finaliste avoisinait les 500 000 euros. Voilà, ça va continuer de discuter sur cet aspect-là. On espère un accord d'ici le deuxième match de préparation lundi à Lille.
Et l'autre sujet de crispation, c'est les places accordées aux familles.
Et c'est presque là que c'est plus tendu. Étrangement, là aussi, dans un contexte économique tendu, la fédération a décidé de demander un effort aux joueurs en divisant par 2 le nombre de places habituellement offertes aux proches dans les tribunes. De 4 places lors de la dernière Coupe du Monde, les joueurs n'auraient plus que 2 places distribuées gratuitement par la Fédé. 6 autres places seraient réservées aux familles, mais à la charge des joueurs. Pour certains, c'est clairement insuffisant, alors que le PSG par exemple avait offert 10 invitations pour les familles de chaque joueur lors de la finale de Ligue des Champions. Là aussi les négociations continuent, mais voilà, c'est un petit grain de sable dans la chaussure des joueurs et de leur famille pour l'instant en préparation de cette Coupe du Monde.
Et Max, on doit dire c'est honteux.
Bah c'est honteux. Parce qu'on parle d'un petit grain de sable. En effet, on est sur quelques centaines d'euros. Enfin, je veux dire, est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de discuter de cette manière avant le début de la compétition? Enfin, honnêtement, il y a des choses. Peut-être que tu peux faire des économies sur autre chose, par exemple. Voilà, je me mets à la place des joueurs, devoir te battre pour avoir 2 places supplémentaires gratuites. Enfin, j'ai été joueur d'équipe nationale. Enfin, honnêtement, t'as autre chose à penser, surtout à l'aube de cette compétition qui, je l'espère, s'annonce exceptionnelle pour l'équipe de France.
Par contre, il y avait le truc de l'hôtel, il est réservé pour que l'équipe de France?
Alors, Il est réservé que pour l'équipe de France. Et il y avait un dernier sujet à régler.
Donc ça a coûté très cher. C'est ça qu'il faut dire, Kevin.
Ah oui, bien sûr.
Quand même, ça, c'est quand même. Enfin, je vais pas dire une hérésie, parce que je ne veux pas en prendre un mot trop fort, mais c'est quand même très particulier, quand même.
C'est-à-dire. Moi, depuis le début, le choix de ce. Moi, je te dis, Kevin, depuis le début, le choix de cet hôtel, je ne comprends pas.
On rappelle, hôtel Four Seasons, en plein centre-ville, assez luxueux.
Donc ça coûte une blinde. Tu es à des 30 temps de trajet qui sont assez élevés. Des chances en est plein en avril. Je comprends pas, et donc en plus il coûte très cher, ce qui fait que tu dois rogner sur d'autres trucs pour pouvoir payer l'hôtel. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Si quelqu'un à la Fédé peut m'expliquer.
Juste, moi je pose une question, je ne sais pas. Toutes les sélections ont réservé tous les autres, tout l'hôtel, ou des fois tu peux avoir deux,
non,
trois étages?
Pas tous les hôtels, pas toutes les chambres de chaque hôtel. Ça, non. Il y a des sélections inférieures, entre guillemets, en termes de niveau.
L'équipe de France, ils sont pas obligés de réserver tout l'hôtel quand même.
Kevin, t'as des stars.
Là, il y a les familles qui se sont rajoutées aussi, Kevin, hein, par exemple.
En fait, Kevin.
Trois étages, c'est bien, non?
Oui, mais tu sais.
En fait, l'histoire, je crois qu'il y a quand même. Il y a quand même un étage qui est laissé à ceux qui sont abonnés à l'année.
C'est des résidents, exactement.
Mais en fait, ils se sont dit, et ça c'était la première explication en avril, au moins on n'aura pas à se prendre la tête pour loger les familles, pour loger les administratifs, pour loger les gens du CA, les invitations, genre de trucs, tu vois. Okay. Voilà. Mais bon, du coup, ça coûte très cher quand même.
Ouais, ça me paraît pas fou, honnêtement. Ça me paraît pas fou. Alors, je comprends l'opinion publique. Ah oui, bah, évidemment, ça, c'est sûr que d'un point de vue financier, c'est important. Mais si tu veux mettre les joueurs dans les meilleures conditions, honnêtement, avoir l'hôtel privatisé, pour moi, c'est pas le minimum, parce que ça va paraître un petit peu.
Tu vas me dire qu'avec le Luxembourg, vous aviez l'hôtel privatisé?
Ben non, mais le Luxembourg, on se qualifie jamais, donc c'était réglé. Mais avec
le Kyriade de Luxembourg. Doha, ils avaient fait différemment.
T'as vu ce qu'il dit, il n'était
pas privatisé.
Le Kyriade du Luxembourg.
Vous n'aviez pas les moyens de vous prendre le Four Seasons,
attention, Luxembourg, les moyens. Attention, sur ce point-là, t'imagines bien que Luxembourg, on était quand même.
C'est pas indexé sur les résultats, alors. Ouais, Fabrice, vous voulez dire quoi?
Juste pour faire un petit aparté, Coupe du Monde des clubs avec Los Angeles, on avait privatisé l'hôtel. Alors évidemment, pas le Four Seasons, mais ça me paraît presque logique, en fait, d'un point de vue sécurité. Mais bon, enfin voilà.
Vous avez demandé sur le Qatar? Non, justement. Je disais qu'au Qatar, c'était différent. C'est-à-dire qu'ils ne l'avaient pas privatisé. Ils avaient un très beau complexe, mais qui n'était pas privatisé. Il y avait des gens qui avaient acheté qui logeaient là, et ça ne posait pas de problème. Bon, voilà, écoutez, on verra. Est-ce que ça va gâcher la fête ou pas? Parce qu'il y a aussi, pour les spectateurs, une Coupe du Monde qui est hors de prix sur plein d'aspects. Mais ça, on aura le temps de vous le détailler. Merci beaucoup, Arthur, pour cette enquête RMC Sport. On parie tout de suite sur France-Côte d'Ivoire.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Payet de la rédaction des Paris RMC qui nous rejoint. Salut Christophe.
Salut Jean-Louis, bonsoir à tous.
Bon, on doit être bien favori quand même.
Oui, alors la cote n'arrête pas de baisser, à vrai dire. 1,32 ce matin, 1,27 cet après-midi, 1,20 maintenant la victoire de l'équipe de France, 6,75 le nul et 10,50 la victoire de la Côte d'Ivoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'imaginer un scénario, et je verrai bien la France gagner, évidemment, parce que cette France me paraît quand même bien supérieure à l'équipe de Côte d'Ivoire. On rappelle, c'est 7 victoires et un nul cette saison. La Côte d'Ivoire qui marque un but avec une défaite contre la France, on passe à 2,60. Ça me paraît intéressant. Les Français n'ont réussi que 3 clean sheets en 8 matchs, et les 3 derniers matchs, ils ont encaissé un but contre l'Azerbaïdjan, contre le Brésil et contre la Colombie. Donc pourquoi pas. Et Mbappé buteur, même double buteur, ça peut être intéressant pour ce fameux record. C'était à 4 ce matin, c'est à 3,85 le doublé de Kylian Mbappé.
Kevin, qu'est-ce que tu fais?
Écoute, moi je vais jouer la victoire de l'équipe de France avec, avec 3 buts dans le match. Avec
3 buts d'écart?
Ouais, 3 buts d'écart.
Au moins 3 buts dans le match.
Non, 3 buts dans le match.
Au moins 3, donc plus de 2,5. Et
voilà.
Ouais, ça grimpe un petit peu, on est sur une cote à 1,75.
Ah, voilà,
ouais. Je crois que Maxime en a une bien plus belle. Hein.
Non, je pensais Maxime. Évidemment que l'équipe de France allait gagner. Et puis évidemment, je vais parler sous votre contrôle, mais il me semble que Kylian Mbappé est à un but d'égaler le record d'Olivier Giroud.
Nos contrôles, voilà, tu nous as écouté tout à l'heure.
Et donc 2 buts de le battre. Donc je verrais bien Kylian Mbappé battre le record ce soir en marquant au moins un doublé.
Et ça, c'est 3,85.
Ah, c'est pas mal.
Mais il avait proposé aussi le 2-0 en antenne, et là, on est une cote à 40.
Ah,
avec le doublé.
2-0 avec le doublé de Kylian Mbappé. Ça, allez, parfait. Hop, allez.
Ça, c'est pour flammer Jean-Louis. Hein.
Et dis-moi, est-ce que la cote un remplaçant marque dans le match existe?
Alors, oui, elle existe, et c'est 2,25.
Bah écoute, moi je te dis ça, c'est pas mal, parce qu'on nous a transmis une info, c'est qu'il y aura jusqu'à 10 changements possibles
sur
ce match de préparation. Et ça va tourner dès la mi-temps.
Enfin, voilà. Elle existe parce qu'elle existe toujours. Mais je vais regarder quand même si elle existe sur ce match-là.
Okay.
D'habitude, elle existe toujours.
Merci Christophe, en tout cas rmcsport.fr pour retrouver tous les conseils de la Dream Team.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et puis l'américanisation du football touche même Nantes, puisqu'on nous informe qu'il y aura des pauses fraîcheurs dans ce match. Alors qu'il fait quoi ? Il fait 15 degrés là, Fabrice, non ?
Ouais, 15-16.
Voilà, donc il y aura deux pauses fraîcheurs, peut-être pour s'habituer aussi en vue de la Coupe du Monde. Ça fait partie de la préparation. Merci Max, on te retrouve tout à l'heure dans l'after. Kevin, tu restes avec nous pour cette rencontre qui débute dans un petit quart d'heure maintenant. On revient sur RMC ensemble pour l'entrée des équipes. Les hymnes, on vous rappelle les deux compos d'équipe. C'est France-Côte d'Ivoire ce soir sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'after live.